Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen.
Imana nziza.
Il est bon, il est grand, il est puissant.
Nziza irahambaye,
il est extraordinaire.
Igitangaza.
Et ne regarde jamais à tes circonstances.
Kandi ntigerera ibyo gezemwo.
Pour mesurer ta louange.
Kugira ngo irabe. Ntuze kugerura ibyo gezemwo.
Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui mesurent la louange qu'ils donnent à Dieu par rapport à leurs circonstances.
Ntuze kugerura ibyo gezemwo kugira ngo utazire neza canke nabi Imana.
Quand les circonstances sont mauvaises, le niveau louange est très bas, le thermomètre est très bas. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez vraiment que les choses changent, ne mesurez pas votre louange par rapport à vos circonstances. Mais soyez toujours croissant dans votre louange. Croissant dans votre adoration.
Quelles
que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises,
qu'il
fasse beau ou qu'il pleuve, que tout aille bien ou que tout dégringole. Vous savez, il y a des journées comme ça. Tout a l'air de nous tomber dessus. D'un seul coup, un paquet de mauvaises nouvelles nous tombe dessus. Alors, c'est sûr, quand on n'a pas l'habitude de marcher dans la foi, on est un peu impressionné. Mais quand on apprend, viens et marche dans la foi.
Amen.
Et c'est là où tu apprends. Parce que la peur te paralysera toujours. La peur, c'est l'opposé de la foi. La peur, c'est ce qui te tiendra toujours au sol. La foi, c'est ce qui permettra à Dieu de te propulser comme une fusée. C'est pourquoi tu dois penser grand, tu dois voir grand, tu dois parler grand. Même si tu es à un petit niveau, peu importe. Et tu vas voir que cette puissante puissance de Dieu va te commencer à t'élever dans tes circonstances. Et là, il y a des moments où tu loueras Dieu par rapport à ce que tu as vécu dans la journée. Tu en rajouteras en plus.
Vous
voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre.
Mais
ça ne se passe pas du jour au lendemain. Rappelez-vous, nous sommes à l'école de Dieu. Tout le monde dit école de Dieu.
École de Dieu.
Nous sommes à l'école de Dieu. Amen. Nous sommes à l'école de Dieu. Donc on apprend. Et quand on est à l'école, on a des enseignements, on fait des exercices, on passe des examens. Et bien avec Dieu, c'est la même chose. Tu apprends la parole, après tu fais des exercices, il y a des moments où tu passes des examens. Et c'est là où tu dois apprendre.
Aller
plus loin. Amen. On va continuer à parler de la vie de l'esprit. Et ce sera la dernière leçon que je vais vous faire dans ce domaine-là. Vous vous rappelez qu'on parlait de la prière. Et on a parlé des prières dans l'esprit parce qu'on a découvert que dans Éphésiens 6, verset 18, il
est
parlé de différents types de prières et des prières dans l'esprit. Donc nous savons qu'il y a des prières dans l'esprit. Et si vous voulez avoir un grand impact au niveau de votre vie de prière, il va falloir que vous entriez davantage dans la vie de l'esprit. Marcher dans la foi, prier les prières de la foi, mais aussi vous allez apprendre à vous laisser diriger par le Seigneur. Et nous avons vu différentes choses à propos de la vie de l'esprit. Rappelez-vous qu'il nous faut un équilibre. Il faut connaître la parole, il faut déclarer la parole. Être des gens de foi, forts. Mais il faut aussi apprendre à entrer dans l'esprit pour être dirigé par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des moments où tu vas prier pour une situation. Et il y a des moments où tu sentiras que c'est pas ça. Tu vas essayer de faire ce que tu peux, ce que tu connais, mais c'est pas ça. Donc il va falloir que tu marches avec l'aide du Saint-Esprit. Et ces prières sont très puissantes. Et on a vu que d'abord, il y a un premier niveau, c'est la prière en langue. Ça nous permet de nous sensibiliser au niveau de notre esprit par rapport à notre âme. Ça nous permet de comprendre quelques petits trucs spirituels. Et puis il y a aussi bien sûr la prière de supplication où là on cherche Dieu et on cherche la direction divine pour savoir comment prier par rapport à une situation. Parce que nous pouvons rencontrer deux choses différentes. Une chose particulière, une situation particulière. Et il se peut que derrière, la façon de prier ne sera pas la même, même si nous avons déjà rencontré cette situation. Parce que Dieu connaît des choses que nous ne connaissons pas. Notre tête peut analyser une certaine situation et vouloir prier dans un sens. Mais nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Dans bien des situations, pour savoir exactement comment être dirigé. Pour prier. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombera dessus comme ça. Vous savez, souvent, les chrétiens entendent des témoignages fracassants. Et ils pensent que ça s'est passé comme ça. Alors, on est là, on dit, « Ah, oh, vraiment, le Seigneur lui donne de la grâce de pouvoir vivre ça. » Vous savez une chose ? Avec Dieu, rien ne se passe par hasard. Donc, on doit apprendre les principes de Dieu. Donc, tu rentres un peu plus dans cette prière et tu cherches la volonté de Dieu. Et on a fait une grande parenthèse sur comment chercher, comment Dieu nous parle. Puis après, je vous ai montré un niveau très supérieur de la prière dans l'esprit. Qui est la prière d'intercession. Nous avons passé deux séances sur la prière d'intercession. Je vous ai montré que la prière d'intercession,
ce n'est
pas quelque chose que vous pouvez initier vous-même. Mais c'est Dieu, par son Saint-Esprit, qui vous amène dans ce domaine, dans cette dimension-là. Et c'est prier pour des gens qui sont sous un jugement. Pour que ce jugement soit évité ou écarté pendant un temps. Nous avons vu différents exemples. Nous avons vu que pour les inconvertis, parfois Dieu nous amène de rentrer dans l'intercession. Et parfois, malheureusement, il y a des chrétiens qui se sont écartés, qui sont dans le péché et qui commencent à se mettre sous un jugement.
Et je vous ai
expliqué tout ça. Et parfois, le Saint-Esprit nous amène à entrer dans une intercession pour que justement, il y ait un jugement qui soit évité. Alors là, ce soir, je vais vous montrer un principe important. On va parler des sentiments de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu a des sentiments ? Vous savez, on a été créé à l'image de Dieu. Vous savez que la Bible dit que parfois Dieu rit sur son trône. La Bible parle aussi que Dieu est parfois triste quand il voit des attitudes humaines. Mais là, nous allons parler d'un mot. Et là, je vais vous livrer un secret. Et quand ça se passera dans votre vie, vous allez voir les choses les plus extraordinaires se produire. C'est le mot compassion. On va parler ce soir de la compassion. Je vais vous montrer ce que c'est que la compassion. Je vais vous montrer que souvent la compassion est confondue avec autre chose. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment ça peut fonctionner dans votre vie. Si vous voulez prier pour des gens et voir les résultats les plus extraordinaires, les résultats les plus inimaginables. Mais là, on continue dans les profondeurs de l'intimité avec Dieu. Par exemple, je vous ai expliqué que dans la prière d'intercession, un des plus grands principes de la prière d'intercession, c'est d'abord l'intimité avec Dieu. Dieu révèle ses secrets à ses intimes. Dieu ne révèle pas ses secrets à quelqu'un qui vient et qui dit « Seigneur, donne-moi, Seigneur, tu vois, Seigneur, Seigneur, Seigneur. » Mais Dieu révèle un certain nombre de choses à ses intimes. Nous avions vu par exemple l'exemple d'Abraham.
twarabonye nka Aburahamu
où Dieu lui a révélé ce qu'il allait faire avec Sodome et Gomorrhe.
Alors tu viens
de parler à Abraham sur l'accomplissement d'une promesse qu'il attendait depuis
25 ans. Nous
avons vu Moïse aussi. Le cœur de cet
homme.
Pour le peuple de Dieu.
Et
comment Dieu lui a dit, je vais détruire ce peuple. Et Moïse s'est tenu à la brèche.
Et il a dit,
Si tu les détruis, détruis-moi avec. Et nous avons remarqué que plus Dieu agit.
Vous
savez, Dieu ne fait pas de grandes choses par hasard. Si vous voulez que Dieu fasse de grandes choses avec vous, il y a une chose qu'il va falloir que vous cultiviez. C'est votre intimité avec Dieu. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne vous utilisera pas sur des choses extrêmement grandes si vous ne cultivez pas votre relation avec lui. Souvent, c'est là où les gens se trompent. Ils pensent qu'en faisant des grandes prières, ils pensent qu'en faisant des trucs spectaculaires, alors Dieu va les utiliser. Et c'est faux. C'est avec l'intimité. Là, je vais vous montrer quelque chose de très important. On va étudier le mot compassion dans le Nouveau Testament. Et on va voir comment Jésus se comportait. On va vraiment découvrir des choses qui sont intéressantes. Ce soir, ça ne sera peut-être pas un enseignement super structuré que je vais vous faire. Mais on va prendre plusieurs histoires qui se sont passées dans les évangiles. Et on va, on va comprendre comment Jésus fonctionnait bien des fois et comment des gens ont été touchés. Par exemple, on va regarder Matthieu chapitre 20 à partir du verset 29. On va voir les aveugles de Jéricho, deux aveugles qui vont être guéris par le Seigneur. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, verset 29, une grande foule suivit Jésus. Or, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils crièrent de plus en plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Et lui dire « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Regardez bien le verset 34. « Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux. » Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le
suivirent. Yesu azigirira akagongwe akora ku maso yazo zica zirahumuka baramukurikira.
Ici, je ne sais pas comment c'est traduit, mais au verset 30, il est dit « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Aie pitié de nous. Okay? » Et au verset 34, il est dit « Saisi de compassion. » Il y a une différence entre la pitié et la compassion. Je
ne
sais pas si tu pourras traduire ça correctement, si vraiment il y a deux mots en kirundi, mais en tout cas en français c'est très clair et dans le grec aussi bien sûr c'est très clair. Je vais l'expliquer. La pitié, qu'est-ce que c'est ? La pitié, c'est un sentiment humain. Quand tu vois quelqu'un dans la souffrance et quelque part ça te fait mal dans tes sentiments parce que t'entends par exemple la personne crier de douleur et ça te fait comme ça. Parce que tu passes dans la rue et tu vois quelqu'un qui est pauvre et d'un seul coup tu regardes tes yeux, tu le regardes, tu, 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 tu regardes devant toi et tu dis ah oh, le pauvre gars il a pas de chance.
Ukabana nk'umuntu mwibarabara kenye cyane ukamuraba kumvura mwumbiye nyina kagoga vuti yo.
Ou tu dis bon tiens je vais lui donner 500 francs ou 1000 francs ça lui au moins ça le soulagera.
Cyangwa avuga uti rekana mu amajana 5 cyangwa igihumbi araza kurarara ibi basu uyu munsi.
Ça c'est de la pitié.
Akona kagongwe.
La pitié est quelque chose d'humain.
Ni kintu nyina abantu bose bagira.
La pitié n'est pas mauvaise.
Si kintu kibi.
Mais n'est pas divine.
Ariko ni kiva ku Mana.
La pitié c'est quelque chose qu'on peut avoir pour des gens.
Akagongwe ni kintu ushobora kugirira umuntu.
Parce qu'on voit qu'il souffre.
Kuko abonye ko ariko
arababara. Et qu'on a envie de soulager la misère.
Ukumva umenga uragomba kumuruhura gatoyi.
Par exemple, on a tout un tas d'ONG qui sont là.
Et ils voient
des problèmes, il y a des problèmes de malnutrition, il y a des problèmes, etc., etc. Et quand ils passent voir des populations, ils se disent, ce sont des gens qui souffrent, on va les soulager. Et ça, c'est très bien, c'est humain. Mais ce n'est pas divin. La pitié, tout le monde en a, n'importe quel être humain d'une manière ou d'une autre. Quelque part ce sentiment de pitié envers les autres. Donc. Ici, ces deux aveugles invoquaient la pitié. Seigneur, aie pitié de nous. On est dans la galère, on ne voit rien, on a entendu que tu guérissais. Aie pitié de nous. Mais la Bible nous dit que Jésus n'a pas eu pitié. Vous savez, Dieu n'a pas pitié des gens. Mais Dieu exerce la compassion. Alors, qu'est-ce que c'est que la compassion? La compassion, c'est quelque chose qui sort du cœur de Dieu. Qui voit la misère des hommes. Mais, avec cela, qui amène la solution pour que les hommes puissent sortir de leur misère à l'aide de la puissance de Dieu. Et c'est complètement différent de la pitié. La pitié, c'est un sentiment que tu peux avoir parce que quelque part, tu as du dégoût de la situation. Tu essaies de faire ce que tu peux pour soulager. Mais c'est un sentiment humain qui amène une solution humaine. La compassion vient directement du cœur de Dieu qui voit la misère humaine et qui apporte une solution divine pour faire sortir là où les personnes de leur condition de misère avec la main de Dieu, avec la puissance de Dieu. Donc c'est complètement différent. Et cette compassion fonctionne avec, je dirais, des règles divines. Parce que si vous voulez voir vraiment Dieu agir, quand vous prier pour quelqu'un, eh bien, il va, vous pourrez rentrer dans certains domaines de la prière qui sont de prier avec compassion pour les gens. Bon, allez, on va donner un exemple. Vous êtes là, vous priez pour un inconverti. Seigneur, sauve-le. Oh, Seigneur, sauve-le, tu vois qu'il est dans cette condition de pécheur. Seigneur, sauve-le. Seigneur, tu vois, il dégringole dans l'alcool, il est malade, etc. Oh, s'il te plaît, Seigneur, sauve-le. Bon, ça, c'est une bonne prière. Mais c'est plus une prière par sentiment que par compassion. Lorsque vous avez de la compassion dans la prière, vous ressentez la condition de l'autre. En fait, il va se passer quelque chose dans votre cœur, dans votre esprit. Et là, je vous garantis, ça va vous amener dans une autre dimension. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des principes sur la compassion de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, il y a parfois des gens qui prient, qui ont l'air passionnés dans la prière en criant très fort. Mais finalement, souvent, la plupart des gens ne comprennent pas. Des fois, vous pouvez être sous l'onction et vraiment, il y a quelque chose, il y a un cri qui vient de votre cœur. Et là, la puissance de Dieu est là.
Si
vous êtes sous l'onction,
il y a comme une
pression divine en vous
qui
a envie de crier
vers
Dieu
pour
que la puissance de Dieu descende. Mais il y a aussi des façons où il y a des gens qui sont dans la chair et qui pensent qu'à force de crier, Dieu va les exaucer. Ou qui mènent vraiment des sentiments humains à leur prière. Non, il y a beaucoup plus que ça. Vous savez, il va falloir que vous appreniez quelque chose dans votre vie spirituelle. Dieu n'agit pas par rapport aux besoins. Il agit par rapport au cœur. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand vraiment vous recevez une direction divine, c'est parce que Dieu voit des cœurs qui sont prêts. Souvent les gens, on voit beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, même beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça, qui font des choses plus parce que les autres le font ou parce qu'il y a un courant de pensée en général dans le monde qui amène les gens vers une direction. Et mais en fait ils agissent, par exemple il y a beaucoup d'églises qui font du social. Le social, c'est bien. Mais à ce moment-là, je crois que ceux qui auraient les plus grandes récompenses au ciel, entre guillemets, au ciel, à ce moment-là, ça serait les Nations Unies, non ?
Ou les ONG.
Vous êtes d'accord ? Faire du social, c'est bien, mais derrière tout ça, quelle est la motivation ? Si c'est la pitié, laissons les hommes faire les choses par pitié. Nous, on travaille dans un autre niveau. Il faut comprendre que quand on prend des directions, que ce soit individuelle ou que ce soit en tant qu'église, ça doit être motivé par le cœur de Dieu. Quand les choses ne sont pas motivées par le cœur de Dieu, et vous savez, des fois, on peut prendre des décisions où il y a des gens qui peuvent dire, mais non, il faudrait aller de l'autre côté, pasteur. Et en fait, les gens parfois ne comprennent pas. Des fois, les gens ne comprennent pas que Dieu donne certains objectifs qui ne vont pas avec les mentalités, parfois, des
personnes.
Et au bout d'un moment, les gens commencent à comprendre, à dire, ah, finalement, c'est bien d'aller par là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On agit avec le cœur de Dieu. Non pas avec
des
sentiments humains. Quoi que vous fassiez, quoi qu'on doit faire en tant qu'église, ça doit être parce que Dieu met quelque chose derrière. Qui nous amène à prendre certaines directions qui parfois peuvent plaire ou ne pas plaire. Mais l'important, c'est de voir là où Dieu veut nous amener. Je déviens un peu, je reviens. Je vais vous montrer comment la compassion de Dieu fonctionne. Quand Jésus a exercé son ministère, à plusieurs moments, il est écrit qu'il fut ému de compassion. Dans ces moments-là, il s'est passé les choses les plus extraordinaires. Il y a deux résurrections particulières qui nous sont mentionnées dans les évangiles. C'est le fils de la veuve de Naïn et Lazare. Dans ces deux cas-là, Jésus était rempli de compassion. Dans le premier texte, c'est marqué littéralement. Dans le deuxième texte, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un, quand vous êtes concerné par rapport à une situation, vous pouvez être concerné par une situation à bas niveau et vous allez prier par rapport à ça. Et vous verrez peu de résultats. Par contre, vous pouvez être concerné vraiment comme Dieu est concerné par la situation. Et là, vous allez ressentir les sentiments de Dieu.
Icyo gihe ukumva nkuko Imana yumva ibintu.
Moi, ça m'est arrivé que quelques fois dans ma vie spirituelle.
Bamaze kunshigira gake cyane mu buzima bwanjye.
Et particulièrement ces dernières années.
Cyane cyane imyaka ya nyuma, imyaka.
D'un seul coup, Dieu m'a fait goûter entre guillemets à ses sentiments par rapport à une situation.
Ugasanga Imana iranyumvishije nk'ibintu bitandukanye abantu bariko baracamwo.
Je vous assure, j'étais complètement bouleversé.
Ndabwiza ukuri nkumva birantinduye.
Complètement bouleversé.
Nkumva birahinduye cyane mu mutima.
Quand j'ai prié pour ces situations là.
Ntanguye gusengera ico kintu.
Je me souviens un jour. J'étais au bureau.
Nari ku biro.
Et il y avait quelqu'un qui était possédé par des démons. Et c'était une personne qui avait des problèmes, qui tournait dans l'église. Et un jour, elle est venue au bureau. Et je suis entré, je sortais moi de mon autre bureau. Et je suis rentré donc au secrétariat. Et d'un seul coup, je suis passé à côté de cette personne qui était assise. Et je l'ai regardé. Et d'un seul coup, les démons sont manifestés. Et sur moi est descendu quelque chose. Un sentiment de compassion. Vous savez, parfois, vous pouvez voir des démons se manifester. Vous
pouvez
dire, au nom de Jésus. Mais là, ce qui m'a fait, là, ce que je ressentais, c'était le cœur de Dieu. Pour que cette personne soit libérée. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à expliquer. C'est quelque chose qui vraiment m'a changé personnellement. D'un seul coup, les sentiments de Dieu qui viennent sur vous. Et vous êtes là. Bien sûr, j'ai cherché ces démons, mais ce n'est pas ça qui m'a impressionné le plus.
C'est pas ça.
Ce qui m'a impressionné le plus,
c'est
de voir Dieu me transmettre ses sentiments.
Et quand j'ai regardé
la personne, d'un seul coup, la compassion de Dieu est tombée sur moi. Et j'avais tellement envie que cette personne soit libérée. C'était comme si c'était quelque chose que, qu'il fallait que je fasse dans le nom de Jésus. Simplement pour que cette personne soit libre.
Parce
que quand vous êtes animé du sentiment de compassion, Dieu vous transmet la souffrance de la personne. C'est quelque chose qui est exceptionnel. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas créer vous-même. On parlait tout à l'heure de gens qui crient dans la prière, de gens qui transpirent dans la prière. Ça peut être dans la chair complètement. Et puis on sort d'une réunion, on dit oh, on a bien prié. Mais il n'y avait pas le cœur de Dieu qui nous était transmis. Vous comprenez la différence? Par contre, le cœur de Dieu vous est transmis. À ce moment-là, vous n'êtes plus le même. Là, vous êtes passionné et vous ressentez ce que ces personnes ressentent. Vous ressentez la perdition du pécheur. Vous ressentez l'enchaînement de celui qui est possédé. Vous ressentez la souffrance de celui qui est malade. Et là, quand vous priez ou quand vous ordonnez les choses, c'est quelque chose qui vous transporte dans l'esprit. C'est quelque chose qui vous amène à faire des expériences exceptionnelles. Parce que vous ressentez les choses comme Dieu les ressent. Et vous ressentez, Dieu vous donne de ressentir comme la personne ressent. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous qui vous permet de prier d'une manière absolument exceptionnelle. Et là, vous voyez des résultats absolument extraordinaires. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu où Jésus était ému de compassion, où Jésus était transporté par cette compassion. On va lire plusieurs passages. Alors, on va lire Luc 7. C'est la résurrection de du fils de la veuve de Naïn. Après, je vais vous expliquer comment passer de la froideur à devenir bouillant dans la prière.
Kugira ngo utangure kumva kuba kumva umucanwa amasengesho.
Parce que ça, il faut que vous l'appreniez.
Kuko ibi navyo no kuvyiga.
Et je vais vous montrer que ça, c'est tout un cheminement qui va mettre des années.
Aha naho n'urugendo rumara imyaka itari mike.
Rien ne se passe en deux jours.
Na nakime kiba mu minsi ibiri
cyangwa mu mwanya. Par contre, quand vous prenez les bonnes décisions spirituelles.
Ariko ugenda urafata ingingo nziza
mu buryo bw'imana. Ça vous amène sur un chemin de découverte.
Bigenda bigutuza ahantu ugenda urubura ibintu umenye ibintu.
Parce que vous savez, souvent, il y a des gens qui sont là et disent, mais moi, quand je prie, je ressens rien.
Hari abantu usanga bavuga ngo jiwe ndiko ndasenga nta kimwe numva.
On te demande pas de ressentir en premier.
Ntibikenewe ko wumva ibintu.
On te demande d'abord d'avoir un cœur pour Dieu.
Igihamba no kugira umutima ubwa mbere.
Et un cœur pour les autres.
Ugira umutima wo gukunda
abantu. Et ça s'acquiert au fil des années.
Ibyo na byo ugenda urabyiga buke buke.
Plus tu mets ta vie à disposition pour Dieu.
Uko ubuzima bwawe bushira ngaho kubw'Imana.
Plus Dieu pourra venir sur toi.
Ni nako Imana ishobora kugenda
iraza kuri wowe. Et te faire vivre certaines expériences.
Ikagucisha mu bintu
bitari. Il y a des gens, ils sont froids, ils sont complètement froids pour tout le monde.
Hari abantu usanga barakanye imbere y'abantu bose.
Ils prient vraiment d'une façon complètement froide.
Ugasanga mu gusenga kwiwe ni
et ne comprennent pas que c'est pas comme ça que les choses doivent être. Parce qu'ils ne se passionnent pas pour les autres.
Et
ils ne se passionnent pas pour Dieu. Et si tu n'es pas passionné ni pour les autres ni pour Dieu, c'est sûr que quand tu vas te mettre à prier, ça risque pas d'être très chaud. Si
tu
es toujours comme un congélateur, il va falloir que tu te réchauffes. Parce qu'il y a un monde à gagner. Et ce monde à gagner ne peut se faire que par des gens qui comprennent leur responsabilité en tant que corps, en tant qu'instrument de Dieu. Et ça, ça va demander que tu changes, que tu te dégèles, et que tu deviennes bouillant pour le Seigneur. Ici, on a une histoire simple, toute simple. Il est dit, verset 11, Luc chapitre
7.
Or il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit et eut compassion d'elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, ils glorifièrent Dieu et disaient, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Ça, c'est un texte absolument incroyable. On a quelques versets. Mais imaginez la scène. Jésus descend dans un village. Jésus a visité tout Israël. La Bible nous dit qu'il a été de ville en ville et de village en village. Et il a rencontré des gens qui pleuraient parce qu'ils avaient perdu des morts. Il a rencontré des gens qui avaient perdu leur bien-aimé de droite et de gauche. Mais là, il arrive dans cette ville. Et d'un seul coup,
Mukanya,
la compassion s'empare de lui.
Gato,
cette compassion
va amener
une résurrection. Les plus grandes choses que vous allez voir dans votre vie spirituelle, ce sont celles qui viendront lorsque le cœur de Dieu vous sera transformé. Ça, c'est ce qui sera le plus grand, c'est les plus belles expériences que vous allez faire. Ce sont des expériences inoubliables. Vous ressentez comme Dieu ressent et vous agissez comme Dieu agit. Ça, c'est quelque chose d'absolument inoubliable, parce que vous savez que c'est pas vous, c'est quelque chose qui vient sur vous et qui vous amène à être complètement transformé. Ce n'est plus vous-même. Dieu vous transmet en quelque sorte une partie de sa personnalité. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il faut faire. Jésus est ému de compassion à ce moment-là et il s'approche de cette femme. Il
ne
pleure pas. Il touche le cercueil. C'est tout ce qu'il a fait.
Et
la puissance de Dieu est tombée. A électrifié cet endroit. Et l'esprit et l'âme de ce jeune homme sont revenus dans son corps. Et il s'est levé. Imaginez la gloire. Mais là, la clé de ce texte, c'est la compassion. La compassion. La compassion.
Va
déclencher les plus grands miracles de Dieu. Si tu as de la compassion pour les perdus, quand tu vas prier, tu vas passer des choses les plus extraordinaires. Si tu n'as aucune compassion pour les perdus, tu ne verras pas les gens venir à Jésus. Regardez l'histoire de Lazare. Jean chapitre 11, nous connaissons ce texte. Ce texte est rempli d'étapes. Avant que Jésus soit dans la compassion. Et quand cette compassion descend sur lui, le miracle se produit. Si vous voulez prier pour les gens efficacement, vous voyez, autant la semaine dernière, on a parlé de tout ce qui est bénédiction financière. Et ça, c'est pas exercer un ministère envers quelqu'un, ça, c'est recevoir. Et se mettre en position.
Mais
il y a un équilibre. Il y a des temps où tu reçois la bénédiction de Dieu. Il y a des temps aussi qu'il faut que tu passes parce qu'il y a un monde qui se perd. Et tout ça doit être équilibré dans notre vie. Si c'est équilibré, je vous garantis, nous allons vivre des moments de ciel sur la terre.
Nous sommes
de plus en plus rapprochés. Ça, je vous le garantis. Si notre cœur est pour les perdus, et qu'en même temps nous manifestons l'attraction du royaume de Dieu dans notre vie, on va exploser dans cette ville. Ça, je vous le garantis. Dans cette ville, l'église va exploser. Ça va être absolument fabuleux. Il va y avoir une telle puissance de Dieu que je vous garantis, ça va être absolument fabuleux. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit toujours dans l'équilibre. Ici, quand on lit cette histoire, je vais la lire assez rapidement, mais franchement, je voudrais que vous voyiez les étapes. Verset 1, il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Regardez bien le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Voilà, Jésus reçoit ça apparemment. Alors, vas-y, tu peux lire le verset 4.
Umurongo reka nsome umurongo wa kane ngo Yesu abyumvise aravuga ati yo ndwara siyo kumwica ariko niyo gushimagirisha Imana kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirisha umenga Yesu yari yumvisemwo iri jambo yari hawe.
Or Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie, verset 5. Et quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Donc Jésus, pour l'instant, il hésite, il reste. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ?» Regardez bien cette parole qu'il va dire ici. « Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, mais parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Et pour vous, Jésus reçoit une révélation ici, bien sûr, il ne le savait pas. Enfin, il ne le savait que par révélation. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-nous aussi, afin de mourir avec lui. Ce Thomas, il ne savait rien, il ne comprenait rien, le pauvre. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, elle lui fait des reproches, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra et quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et dit secrètement, « Le maître est ici, et il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient dans la maison avec Marie et avec Marie et qui la consolait, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivèrent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée où Jésus, là où Jésus était, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Regardez bien ici, verset 33 maintenant. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il y a quelque chose de spirituel là qui commence à se passer. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur lui répondit, « Viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait pas-il faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Regardez bien maintenant verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit en tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. » Car c'est le quatrième jour. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors, quand on voit toute cette histoire, on voit que Jésus a l'air d'attendre. Il apprend la mauvaise nouvelle, mais il attend quelque chose. Ce qu'il attendait, c'était le feu vert du Saint-Esprit. Et la situation s'est empirée. Elle s'est complètement empirée. De malade, Lazare est passé à l'état de mort. Et tous ceux qui connaissaient Jésus lui ont parlé et ont dit, si tu avais été là, il ne serait pas mort.
C'est
sûr qu'il pourrait guérir. Mais Jésus n'est pas capable seulement de guérir, il est capable aussi de ressusciter un mort. Ça, c'est quelque chose que je veux voir au Burundi.
Un
mort ressuscité. Quelqu'un qui va témoigner pour la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on verra et que je veux voir. Mais là, on voit le cheminement dans l'esprit de Jésus. Son esprit est une première fois secoué. Après, il va vers le mort. Et son esprit est encore secoué. Ça, c'est la compassion de Dieu. Jésus va pleurer, mais il ne pleure pas de sentiment d'amertume. Il ne pleure pas de tristesse en disant « Tout est foutu ». C'est la compassion qui était là en manifestation. Et quand la compassion est en manifestation, tous vos sentiments sont ébranlés. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là pour Jésus. Jésus n'a pas pleuré de désespoir. Jésus ne faisait pas partie des pleureurs. Jésus n'a jamais fait partie des défaitistes. Mais Jésus faisait toujours partie des victorieux. Et il est le victorieux suprême. Et quand cette compassion est venue à ce moment-là, c'est là où le miracle s'est produit. Tant que la compassion n'était pas là, il ne se produisait rien, Jésus attendait un signal du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui avait révélé que Lazare était mort. Parce que personne ne l'avait dit encore. Mais il a dit à ses disciples, il est mort. Maintenant, il faut qu'on y aille. Parce qu'il y avait cette direction divine.
Une
direction divine, parfois, ne vous amènera pas forcément un résultat. On peut le voir dans nos vies. Parfois, on a une direction divine pour prier pour quelqu'un. Et on passe à côté du résultat et on est confus. Parce qu'on n'attend pas que Dieu nous transmette ce sentiment de compassion. Et soyez sensibles au Saint-Esprit. Quand vous priez pour des gens, soyez sensibles au Saint-Esprit. Là, je voudrais faire une parenthèse parmi certains chrétiens. Vous savez, il y a un certain nombre de chrétiens qui prient, mais finalement, bon, ils veulent prier pour les autres. Mais ils veulent avoir un résultat. Et en fait, ce résultat, ils vont s'en servir pour se glorifier. Et parfois, malheureusement, on le voit. Vous savez, Dieu ne vous utilisera pas.
Imana
n'izogukoresha. Si vous voulez prendre un morceau de sa gloire.
Nimba hari igipande cy'icyubahiro
cyawe. Il dit bien dans Ésaïe.
Iravuga neza muri Yesaya.
Deux fois.
Kabiri kose.
Qui ne partage pas sa gloire.
Ngo sinzosangira icyubahiro
cyawe. Un jour tu seras récompensé quand tu seras dans le ciel.
Umunsi umwe niwashika mu ijuru uzohabwa impera.
Mais je vais te dire une chose.
Ariko reka nkubwire
iki. Si tu veux entrer dans la compassion de Dieu.
Nimba ugomba kwinjira mu mbabazi z'Imana.
Si tu veux être utilisé par Dieu.
Ugomba gukoreshwa n'Imana.
Dans ce domaine où vraiment Dieu te transmet ses sentiments. Ça va être un cheminement. Un cheminement par rapport à ton attitude. Il y a parfois des moments où on prie pour des gens et on ne voit pas de résultats parce que nos motivations sont mauvaises.
Jacques en
parle d'ailleurs. Jacques dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. On va lire ce passage. Parce que derrière ce passage, il y a beaucoup de vérité. Jacques chapitre 4.
Yakobo igice cya kane.
Verset 3, il est dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions.
Ngo murasaba ntimuhabwe umurongo wa gatatu kuko musaba nabi kugira ngo mubyononere mubibahimbara.
Et parfois, il y a des gens comme ça qui veulent prier pour des malades. Ils veulent voir le malade guéri. Mais derrière tout ça, la motivation n'est pas pure. Il y a une chose dans laquelle on ne peut pas tromper Dieu. C'est dans nos motivations. Vous savez, on peut faire de très belles prières. On peut prier pour des gens. Mais la motivation avec laquelle on prie, ça, on ne peut pas le cacher à Dieu. Dieu sait exactement. Si tu veux voir un malade guéri, si tu veux voir quelqu'un édifié, si tu veux voir quelqu'un être touché par sa puissance, quelle est la motivation derrière avec laquelle tu pries? Et ça, c'est quelque chose qui est très important, sur lequel il faut beaucoup travailler. Surtout les jeunes, les futurs grands prédicateurs. Il faut que vous travailliez durement sur cette attitude-là. Parce que souvent, les jeunes se gonflent la tête en priant pour les gens quand ils commencent à avoir deux ou trois résultats. Et après, ils veulent avoir d'autres résultats pour montrer qu'ils sont très grands. Ça, c'est une motivation impure qu'il faut crucifier. Si tu ne la crucifies pas pendant que tu es jeune, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Il va t'utiliser un petit peu, mais comme il voit que tu ramasses le paquet de la gloire,
eh bien,
il dira, toi, je ne peux pas te faire confiance. Parce que sinon, tu risques de tomber. Et c'est à ce moment-là où tu restes à prier pour les gens d'une façon, je dirais, au premier niveau, c'est-à-dire dans tes sentiments
personnels.
Vous savez, quand on veut entrer profondément dans la prière, la prière n'est pas un jeu. La prière n'est pas un truc histoire de dire on va prier pour telle et telle personne. Mais on veut prier parce qu'on veut être efficace. On veut démontrer le royaume de Dieu. On veut amener des résultats. Et des résultats pour sa gloire. Dieu nous a donné un mandat où on est dans le business de la transformation des vies. Et pour amener la transformation des vies, il va falloir qu'on prenne les choses très au sérieux.
C'est pas
histoire de jouer à droite ou à gauche à la prière,
ou de
se dire oui, je veux voir telle personne guérie. Mais pose-toi la question. Quand tu pries pour quelqu'un, quelle est ta motivation? Ta gloire personnelle? Pour aller raconter à tous tes amis? Tu sais, moi j'ai prié, je vais te raconter comment ça s'est passé. Si c'est ça ta motivation, c'est qu'elle est pourrie. Il faut que tu la changes. Dieu ne te transmettra jamais son cœur si tu as une telle motivation. Donc, si tu commences à ne pas voir de résultats alors que tu as vu des résultats précédemment, pose-toi la question avec quelle attitude tu veux prier pour les autres. Pose-toi cette question parce que c'est important. Si tu commences à travailler ton attitude, Dieu va à nouveau t'utiliser. Et il y a des moments où tu continuera à te donner à lui davantage.
Parce
que de toute façon, tu ne ressentiras jamais comme Dieu ressent si tu n'es pas quelqu'un d'engagé avec le cœur de Dieu et des motivations. Plus tu es engagé avec lui, plus tes motivations ont été éprouvées et sont pures, plus que tu vas prier va avoir un impact important. Et plus tu verras que Dieu a des moments particuliers que tu pries pour des gens,
que tu
transmets ces sentiments. Et quand
il
te transmet ce sentiment de compassion, c'est là où ça va déclencher les choses les plus extraordinaires. Un jour, il y avait une foule qui suivait Jésus.
Vous trouvez
ces passages dans les évangiles.
Vous
voyez, par exemple, une des multiplications des pains. Si vous étudiez le texte, vous verrez qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus.
Et
pourtant, vous savez, Jésus, parfois, il n'a pas été très tendre avec certaines foules. Jésus a été clair. À un moment, il s'est retourné vers une grande foule qu'il suivait. Et on dit, si quelqu'un veut me suivre, et être mon disciple, qu'il laisse tout derrière lui. Ah non, Seigneur, on n'est pas tout à fait d'accord. Donne-moi la guérison, donne-moi ce dont j'ai besoin. Donne-moi. Mais moi, je garde ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Et Jésus a dit, non. Vous devez renoncer à votre vie. Vous devez mettre votre vie par terre. Et construire sur moi. Porter votre croix. Faire ce que je vous demande de faire. Ne pas faire ce que je ne vous demande pas de faire. Jésus était exigeant. Jésus savait ce qu'il y avait dans les foules. Il y a un moment dans Jean chapitre 2, la Bible nous dit qu'il ne se fiait pas à ce que les gens disaient de lui, au témoignage que les gens donnaient. Un autre passage nous dit qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Jésus avait toutes sortes de foules qu'il suivait. Mais il y a eu un moment, si vous regardez dans une des multiplications des pains et des poissons, je vous rappelle qu'il y en a eu deux. Jésus a fait deux fois ce miracle. Et une fois, c'est la première. Jésus était suivi d'une grande foule. Et ces gens-là avaient soif de lui. Ils avaient soif de lui. Et au bout d'un moment, ils se sont retrouvés avec rien, ils avaient faim, ils étaient fatigués. Et la Bible nous dit que Jésus a eu compassion de cette foule, de ces brebis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a déclenché ce miracle. Jésus a eu compassion, nous dit la parole de Dieu.
Il a eu compassion.
Au moment même où Jésus a eu compassion, à chaque fois que vous lirez ce mot-là dans les évangiles, quelque chose de glorieux va se déclencher. La guérison chez les aveugles, que nous avons lu en premier, la résurrection du fils de la veuve de Naïn, la résurrection de Lazare, la multiplication des pains, à chaque fois. Et il y a d'autres passages où Jésus a guéri des gens. Parce qu'il y avait une compassion d'un seul coup sur lui. Cette compassion venait parce que les gens avaient un cœur droit et ils voulaient un toucher de Dieu. Ils voulaient vraiment que Dieu les touche d'une façon spéciale. Et quand il y a deux personnes qui se rencontrent, l'une qui a une attitude de demande, qui a un cœur qui veut vraiment trouver quelque chose de la part de Dieu, et l'autre qui prie, avec une motivation pure
et
qui est dans l'intimité de Dieu,
à ce moment-là,
il se passe quelque chose. La puissance de Dieu tombe et les situations sont changées. Quand Dieu nous transmet ses sentiments, les situations changent. Rappelez-vous ce que je vous ai dit de la compassion. La compassion n'est pas la pitié. La pitié, c'est que tu vois quelqu'un dans une détresse, tu dis voilà, tu essayes de le soulager d'une façon humaine. La compassion, c'est la transmission des sentiments divins par rapport à une situation de désespoir humain et qui amène un changement avec la puissance de Dieu. Tu commences à prier pour les perdus et tu sens une compassion pour quelqu'un peut-être que tu n'aimes pas.
Mais d'un
coup, Dieu transmet son cœur.
Hein.
Et tu pries pour cette personne. Quelque temps après, cette personne accède au salut. Tout ça, ça s'appelle la compassion, c'est surnaturel. Je vous encourage vraiment à regarder ces passages de l'Évangile. Il y en a un certain nombre, on en a vu hein, juste une partie ce soir. Et à chaque fois qu'il y a ce mot, Jésus fut ému de compassion, cette expression. Jésus
fut compassion.
À ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, de fracassant d'un seul coup qui est descendu sur la terre. Parce que Jésus était là dans ses sentiments divins, qui était en pleine manifestation. Ça, c'est un domaine de la prière qui est des plus profonds. L'intercession, tu pries souvent et tu ne sais pas pour qui tu pries. La compassion, c'est un moment particulier où les sentiments de Dieu descendent sur toi. Où tu t'identifies complètement à la personne qui est en face de toi et qui a un besoin qui est dans un désespoir complet.
Mais
c'est comme si tu étais les mains de Dieu pour sortir cette personne de sa situation et tu l'amènes là où elle doit être, là où Dieu l'a
fait,
pour la gloire unique de Dieu. Ça, c'est la compassion divine.
Le
Seigneur vous bénisse
et pensez
à ces choses. Bonne soirée à tous. Et on se retrouve vendredi pour la deuxième année de l'Institut biblique.
Naho kwa gatanu mu ishure rya kabiri rya Bibiliya.